Hugo d'Avril, l'analyse ne se découvre pas dans le film.
Eh bien nous, on a décidé de rompre avec la tradition, en commençant. Alors bien sûr, bon, la psychanalyse est robuste, elle a essuyé pire que les giboulées en retard qui lui tombent dessus actuellement. Mais il y a quelque chose autour d'Avril, parce que Avril est quand même décidément la période de l'année où le monde s'enquiert d'attaquer la psychanalyse. Alors bon, pourquoi Avril? Peut-être parce que la pulsion printanière qui s'éveille déterre les ardeurs sexuelles de tout un chacun, et que les problèmes liés à la sexualité sont peut-être la chose la mieux partagée au monde. Et qu'il faut bien attaquer celui qui en est l'officiel et scandaleux découvreur. Bon. Petite hypothèse. Alors c'est vrai, chaque année en avril, si ça n'attend pas septembre, c'est ça, en référence au livre noir qui était sorti il y a 2 ans de ça, on nous ressort une mise en cause de la question freudienne et de la psychanalyse. Et l'autre jour, par hasard, je suis tombé sur une revue qui était chez moi, pour rien me cacher, j'étais dans les toilettes, et je tombais sur un numéro du Point d'avril 2006, et qui traitait déjà une énième fois de la question. La psychanalyse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a de légitimité ou pas? Alors, je dis tout ça, vous aurez bien compris, parce que Michel Onfray sort actuellement son pamphlet contre l'œuvre freudienne et l'homme Freud, qui met en dialectique, et qu'il a appelé le crépuscule d'une idole. Je le cite contextuellement, on ne va pas en parler ce soir, peut-être qu'on pourra remettre le sujet au 2 juin 2010, donc c'est la dernière des interventions qu'on fera. Alors là, je disais, nous rompons avec la tradition, puisque c'est la première année que, qui plus est, donc au mois d'avril, que des psychologues interviennent à l'Université Populaire de Lyon, dans une approche de l'œuvre psychanalytique, des effets, à partir de Freud, et sur un sujet qui fait son originalité, le concept limite de pulsion. Alors, je vais nous situer de la place d'où nous parlons, parce que nous sommes donc tous psychologues cliniciens et praticiens, dans des institutions différentes, des milieux divers, avec des populations variées, enfants, adolescents, adultes, même très petits enfants, et chacun prendra soin à chaque fois de se présenter plus en détail. En tout cas, c'est cette diversité de pratiques qui nous permettra d'aborder la question de façon complémentaire. Car s'il y a bien quelque chose qui change la couleur de la théorie, c'est la pratique clinique, la pratique du soin psychique. C'est d'ailleurs un des aspects principaux qui nous démarque de la philosophie. La théorie est écrite à partir de la clinique du soin psychique des patients et dans le but unique d'élaborer une pensée qui a pour exigence de faire retour vers la clinique même. C'est une pensée de l'affectivité, de la souffrance humaine, une pensée des théories métapsychologiques, du fonctionnement psychique et psychopathologique, une pensée des techniques variées, des cadres et des dispositifs qui s'y rapportent. Nous avons donc été formés à l'Université Lumière Lyon 2, diplômés de Master 2 de psychopathologie et psychologie clinique, et pour certains actuellement chercheurs. Nous ne sommes pas psychanalystes, ça fait la différence, mais nous nous référons à la métapsychologie freudienne comme outil princeps pour exercer notre métier. Nous avons aussi, pour une part, pu apprécier les affres du divan, ce qui donne une expérience in situ, non négligeable, de ce dont parle la théorie, depuis l'intérieur du dispositif de cure inventé par Freud. Alors j'en arrive à nos 6 interventions à venir, qui traite la question des limites sous divers aspects, dans l'expérience qu'en fait le sujet, aux franges et aux entrelacs de son corps, de sa psyché, de ses autres, communément appelés objets, encore qu'on pourrait faire une différence. Donc le concept de pulsion, autour duquel nous allons tourner, est présent dans toute l'œuvre freudienne et décliné chez une grande partie des post-freudiens. Alors Mathieu Garraud commencera donc aujourd'hui par nous présenter sa petite biographie de la pulsion, premier acte, en s'intéressant à 2 textes majeurs de l'œuvre freudienne. Pour ma part, je continuerai ce travail le 5 mai en déclinant la pulsionnalité des premiers écrits de Freud de 1895, issus de l'esquisse d'une psychologie scientifique, au fil d'une question, la question psychosomatique. Et après cet entracte, Jean-Baptiste Desvaux poursuivra sa petite bibliographie de la pulsion, acte 2, où il abordera à la suite de Mathieu d'autres textes fondamentaux de l'œuvre de Freud, mais aussi des post-freudiens, essentiellement Winnicott, mais d'autres aussi, Mélanie Klein, Bion, André Green, et j'en passe. Il fera ainsi le pont qui amènera Claire du Rosard à se questionner le 19 mai sur le rôle de l'objet dans l'émergence et l'organisation de la vie pulsionnelle du sujet à travers l'expérience de la transitionnalité. Et pour rester dans le sujet, peut-être on pourrait parler d'objet, dans l'objet, ou dans l'objet du sujet, ou peut-être l'inverse, enfin, bref. Pour rester, Antoine Finet nous fera part, le 26 mai, des conditions d'émergence d'un sujet différencié de son environnement, au travers de la constitution des enveloppes psychiques et du moi-pot, concept phare de Didier Anzieux. Et on terminera donc le mercredi 2 juin, qui nous donnera l'occasion de tracer les limites parfois malaisées entre diverses professions, souvent plus complémentaires qu'on ne le croit. Psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste. Et pourquoi pas en regard des considérations philosophiques. Voilà, j'en arrive au bout et donc je laisse la place à Mathieu Guérin.
Rebonsoir. Alors moi, ce soir, je suis chargé de vous faire une petite biographie de la pulsion, acte 1, comme disait Yannick. Mais c'est vrai que ce soir, vous allez beaucoup entendre parler, je pense que les prochaines conférences aussi, de clinique. Donc peut-être qu'on commence par définir ce que c'est que la clinique. Alors, l'étymologie, je crois que ça vient de cliné. L'origine de ce terme, en fait, c'est d'être au chevet du patient. Quand on parle de psychologie clinique, on parle d'une clinique qui est appliquée, une psychologie appliquée à la clinique. C'est-à-dire, voilà, elle est dans la rencontre clinique, dans la rencontre avec le patient. Et pas forcément qu'avec la maladie, c'est-à-dire avec l'homme, derrière la maladie, l'homme malade. Durant ces 6 conférences, je pense que vous allez beaucoup entendre parler de ce terme, clinique. Les psychologues, ils n'ont pas l'apanage de la clinique. Hein. Que ce soit les éducateurs, que ce soit les médecins, que ce soit les kinés, voilà, tout cela font de la clinique. Et c'est vrai que actuellement, la clinique est assez en danger aujourd'hui. C'est vrai que ce livre de Onfray peut être aussi un instrument assez dangereux, puisque aujourd'hui, on sait à l'hôpital, avec toutes les réformes, la question de l'homme au centre du soin, elle se perd de plus en plus. Donc, cette tribune que nous offre aujourd'hui Françoise va aussi nous permettre un petit peu de recentrer la question du soin sur la question de l'homme. Voilà, clinique, ça veut dire au chevet du patient. Voilà, ce soir je vais vous proposer mon petit plan. On va commencer par une introduction. Je vais essayer d'aller assez rapidement, j'avais prévu de dire des choses, mais Yannick m'a anticipé. Une deuxième partie qui s'appellera « La pulsion et sa mauvaise réputation ». Troisième partie, quelques idées directrices pour une lecture de la pulsion chez Freud. Puis après, trois essais sur la sexualité, qui est un des bouquins de Freud. Puis pulsion et dessin des pulsions, article. Un petit récapitulatif. Et puis pour conclure, on essaiera d'ouvrir un peu sur la pulsion, matière à philosopher. Introduction. Donc faire une biographie du dictionnaire, c'est faire l'histoire de la vie d'un personnage. Et la pulsion est l'un des personnages centraux de la psychanalyse freudienne et post-freudienne. Sur la fin de sa carrière, Freud, en 1932, disait « La théorie des pulsions est, pour ainsi dire, notre mythologie. » C'est-à-dire que la théorie des pulsions, elle est au centre de la pratique psychanalytique. Et on pourra dire aussi, quelque part, au centre de la pratique de la psychologie clinique. Schématiquement, on va beaucoup parler de psychanalyse, on va peut-être essayer de le définir assez simplement. C'est deux choses, la psychanalyse. Déjà, peut-être quelques mots sur Freud. Pour le situer, donc c'est un homme qui est né en 1856, est mort en 1939, il est donc mort à 83 ans. À Londres, où il s'était exilé suite à la montée du nazisme pendant l'entre-deux guerres. Il est l'inventeur de la psychanalyse, mais il fut accompagné tout au long de sa vie par des disciples. Il a aussi eu des maîtres, je crois qu'il faut le dire aussi. Sa formation initiale, c'est celle d'un médecin, neurologiste. Donc un biologiste, et à ce titre, dans toute sa carrière, il aura toujours eu cette tentation biologisante du psychisme. Yannick, je pense, vous en parlera. Il a d'ailleurs, dans ses premières tentatives, il s'orientera vers une neurologie appliquée à la psychologie, une psychologie à l'usage des neurologues, c'est-à-dire une explication de l'activité psychique par la physiologie. Mais tout au long de sa carrière, il tentera de s'en dégager, du modèle physiologique, il va tenter de s'en dégager. Donc, la psychanalyse, c'est deux choses, schématiquement, très simplement. La première chose, c'est un corpus théorique cohérent, ce que Freud appelle la métapsychologie. Alors, c'est pas qu'une simple psychologie. Quand il introduit le préfixe « méta », il entend que c'est une psychologie qui va au-delà d'elle-même. C'est parce qu'il fait là le postulat de l'inconscient. Donc c'est pas une simple psychologie de la conscience, c'est une psychologie qui va au-delà de la conscience en faisant le postulat de la psychanalyse, de l'inconscient. Et c'est un corpus théorique conséquent. On va essayer d'en tracer ce soir certaines grandes lignes à travers la pulsion et la première théorie de pulsion. Et c'est très complexe. En plus, il y aura des remaniements tout au long de sa carrière de ce corpus théorique. La deuxième chose, et ça Yannick l'a évoqué, et c'est quand même assez central, c'est une théorisation qui se base sur un dispositif thérapeutique singulier que Freud a appelé la curetille. Alors je vous ai mis une petite image, c'est-à-dire c'est la fameuse image d'Épinal du divan. Et voilà, le patient qu'on appelle analysant est allongé, l'analyse se trouve derrière lui. Voilà, c'est un dispositif singulier qui tente à neutraliser certains pans de la réalité psychique pour en attracter, pour faire force d'attraction sur d'autres. Il ne l'a pas inventé du jour au lendemain. Il a déjà au départ expérimenté l'hypnose où il faisait allonger ses patients. Puis après, selon certaines contraintes que la pratique clinique de ce dispositif l'a contraint, il est obligé de remanier ce dispositif. On peut aussi penser que Freud avait aussi certaines névroses et que la question de la séduction dans le face-à-face était aussi assez problématique pour lui. Alors peut-être pour compléter un petit peu ce que Yannick a dit, il y a une particularité française de la psychologie clinique en France. La psychologie clinique en France, elle naît au début du XXe siècle. Mais à la base, la psychologie, c'est une émanation de la philosophie. L'un des premiers psychologues, dans ce que j'ai pu lire, Henri Bergson était considéré comme un psychologue, philosophe et psychologue. Donc on a une première tradition de la psychologie qui est plutôt philosophique. Et puis il y aura tout un pan de la psychologie qui va être expérimental et de laboratoire. Ça, on est au début du XXe. Et c'est à la même époque que va naître une nouvelle profession qui est celle des psychologues. On doit à Daniel Lagage, qui est un philosophe et psychanalyste, l'introduction de la psychanalyse à l'université. Et ça sera un tournant assez essentiel de l'enseignement, en tout cas de la psychologie clinique en France. Ce qui fait que la psychanalyse entrant à l'université, dans les sciences humaines, l'anthropologie sera brassée par les questions de psychanalyse. D'ailleurs, Lévi-Strauss, il parle très bien de ce choc que ça a pu être pour lui de lire Totem et Tabou. Et puis, il y a aussi une particularité lyonnaise, à Lyon 2, qui met au centre de la psychologie clinique la psychanalyse. Peut-être pour former aussi de futurs psychanalystes. Je reprends ma petite citation que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est une citation qui date de 1932, 7 ans avant la mort de Freud. Il dit « La théorie des pulsions est pour ainsi dire notre mythologie, son fondement. Les pulsions sont des êtres mythiques, grandioses, dans leur indétermination. » Voilà, on est sur la fin de sa carrière. Il dit clairement « Ce qui fonde la psychanalyse reste encore indéterminé, malgré tout le travail qu'il a fait. » Il y a encore du boulot pour la suite. Donc ce qu'il dit, c'est que la pulsion, pour lui, c'est l'une des pierres d'édifice de la psychanalyse. Mais qu'il est difficile aussi d'en donner une définition une bonne fois pour toutes. Freud va quand même s'y aventurer en disant, petite parenthèse, dans quelques temps, on mettra le PowerPoint à votre disposition sur notre site. Je vous dirai comment faire. Si vous n'avez pas le temps de marquer toutes les citations. Donc il en donne une première définition. Il dit le concept de pulsion nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps. qu'il dit concrètement ici, c'est que la pulsion, elle est entre deux, elle a une formation intermédiaire. La maïeutique du concept de pulsion, c'est-à-dire l'élaboration théorique d'un tel concept chez Freud, répond à plusieurs exigences. On l'a dit, l'une des premières exigences, c'est celle de la clinique, de l'expérience clinique de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une réalité clinique que Freud va être contraint à conceptualiser avec ses patients. Il admet que quelque chose pulse, que quelque chose pousse en l'homme, quelque chose qui prend ses racines dans le corps et parvient à ce qu'il appelle l'appareil psychique. L'une des autres exigences, et ça on est plus à un niveau au-dessus, c'est le contexte historique dans lequel Freud se situe, un contexte historique marqué par la pensée dualiste et dualisante. Héritière du cartésianisme. On ne peut pas penser la démarche de recherche de Freud sans penser son contexte. Voilà, on est dans l'héritage cartésien, le dualisme corps-esprit, et Freud va puiser la matière première pour sa réflexion tout en essayant de s'en détacher. Ce qu'on va dire, il va tenter de la dépasser, cette pensée dualisante, de la transcender, de transcender l'opposition simple, dualiste, corps-esprit, psyché-soma. Donc, déjà, en termes de définition, le soma, c'est le corps, et la psyché, c'est l'esprit, tout simplement. La pensée de Freud, c'est toujours celle d'un entre-deux, toujours à renouveler et risquer. Il sera en permanence dans un travail de construction et de déconstruction de ses modèles de pensée. La pulsion et sa mauvaise réputation. En faisant mes petites recherches pour ce cours de ce soir, enfin cette conférence, je me suis aperçu que l'usage du mot pulsion a trouvé une nouvelle vitalité au cours du XXe siècle dans la langue française. Ça faisait à peu près trois siècles que ce mot-là n'était plus très utilisé. Les spécialistes disent que l'une des raisons à cela, c'est les premières traductions de l'œuvre freudienne en français, qui vont traduire Trieb en langue allemande en pulsion. Et puis aujourd'hui, on peut dire que la présence si importante dans le langage courant des mots comme pulsion, lapsus, inconscient, complexe de Oedipe, marque bien aujourd'hui la pénétration des idées de Freud dans la culture, un succès qui en retour se fait par un usage souvent très approximatif des termes. Mais aujourd'hui, quand on y pense bien, quand on parle de pulsion, c'est pas forcément dans les meilleurs termes. On parle, ça fait peur, ça terrifie, ça dérange. Dans les médias, on parle. J'ai trouvé un article dernièrement sur une agression d'une bande de jeunes sur un jeune homme à Grenoble, pulsion meurtrière d'un groupe de jeunes. On parle aussi, et ça c'est plutôt les séries, qui parlent des serial killers, c'est par le plaisir à tuer, pris par une pulsion. Ou alors les pédophiles et les pulsions sexuelles irrépressibles. Voilà des sujets qui sont très d'actualité. C'est-à-dire un homme qui a des pulsions, finalement, quelque part aujourd'hui, c'est un monstre. Le cinéma aussi se fait le sédiment de cette mauvaise réputation. L'un des exemples, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce film de Brian De Palma qui s'appelle Pulsion. Dont le titre original est Dresd to Kill. Je vous ai mis le synopsis, je vais vous le lire. Est-ce que parmi vous, déjà, il y en a qui connaissent ce film? Qu'est-ce que nous dit le synopsis? Kate Miller, la cinquantaine, est frustrée sexuellement, suit une psychothérapie. Bon, ça commence bien. Sentant la jeunesse lui échapper, elle va succomber à un inconnu rencontré au musée. Cette rencontre lui sera fatale. En revenant chercher la bague qu'elle avait oubliée chez son amant, elle rencontrera la mort dans l'ascenseur. Liz Blake, une prostituée, a vu la scène dans le miroir de la cabine. Une blonde a lacéré Kate Miller avec un rasoir. Cette blonde, je veux dire, la meurtrière, n'est pas encore une femme. Mais une femme dans un corps d'homme, à qui son psychothérapeute, le même que celui que Kate Miller, refuse l'agrément pour une opération de changement de sexe. Voilà. Ça fait un peu meurtre, sexe et violence, on dirait un programme de TF1. Voilà à quoi aujourd'hui la pulsion semble être associée. Enfin, la question que je me suis posée en construisant ce cours, c'est pourquoi aujourd'hui la pulsion, en tout cas ce mot-là, a-t-il une si mauvaise réputation? Ce que je propose de dire, c'est que dans l'imaginaire collectif, c'est bien du corps et de sa part animale dont il est question, à laquelle la pulsion est associée. Une autre petite citation, une citation d'une psychanalyste française qui s'appelle Janine Chasguet-Snirgel. Elle dit dans un bouquin qui s'appelle le corps comme miroir du monde. Elle dit « La représentation du corps dans la psyché a subi au cours du temps bien des avatars. Il ne s'agit pas, ou pas seulement, d'un développement purement linéaire lié à la rupture de l'homme avec le cosmos, c'est-à-dire c'est l'harmonie de l'homme avec son environnement, comme on peut retrouver dans les tribus amazoniennes où on prélève juste le nécessaire. Escandé par la naissance du capitalisme, les écrits de Descartes, l'essor de la bourgeoisie, etc. L'avènement de la modernité, en l'arrachant à la nature, en créant l'individu, le concept d'individu, serait l'ultime explication de la séparation de l'homme, aussi bien avec le monde qu'avec son corps. Mais ce qu'elle dit, et c'est là le plus important, mais le mépris du corps, de la chair, remonte bien en deçà de la Renaissance. Les gnosticismes, la macération de la chair, le port de la silice, la flagellation, les pratiques ascétiques, la glorification de la chasteté, le célibat, sont plus anciens que le christianisme et culminent avec lui. Ça, c'est des questions finalement très d'actualité aussi. Hein. Ce qu'elle essaie de dire, en fait, c'est que le corps comme objet d'horreur, c'est un peu un fil directeur de l'humanité. Et qu'aujourd'hui, effectivement, elle le dit, c'est que c'est un de nos héritages cartésiens. J'aimerais vous rappeler ce que disait Descartes en 1647 dans la Méditation. Je me considérais premièrement comme un visage, des mains, des bras, et cette machine composée d'os et de chair, telle que par un cadavre, laquelle j'ai désigné du nom de mon corps. Alors quand c'est Descartes qui le dit, ça paraît assez pertinent. Sauf que si on recontextualise et qu'on se dit, voilà, on a un patient en face de soi qui dit ça, quand on est psychologue, on se dit, on est proche de la psychose. Et je crois que les spécialistes, il y a quelques psychanalystes qui se sont intéressés à Descartes et qui ont dit qu'il avait une base un petit peu psychotique. Enfin bon, voilà, Descartes, il se fait aussi le révélateur d'un moment qu'on pourrait appeler épistémologique fort dans nos sociétés. C'est-à-dire, voilà, il vient de dire qu'il y a véritablement un dilemme dans l'homme entre la question du corps et la question de l'esprit. Donc le cartésianisme, quelque part, c'est l'apologie de la raison pure, du dualisme corps-esprit. Pour lui, le corps est un vulgaire amas de chair, d'os et d'organes dépourvus de sens. Alors, une des premières hypothèses, c'est parce que peut-être que le corps, c'est le lieu de la finitude humaine, de la précarité de notre existence, la mort, le vieillissement. C'est quelque chose sur lequel on n'a aucune prise. Mais c'est tout incessante, hein, qu'on peut remarquer aussi dans la médecine moderne, qui tente à toucher l'immortalité. Ce détachement du corps d'avec soi-même, cette tentative d'émancipation qui traverse l'histoire de l'évolution des sociétés humaines, et particulièrement en Occident. Il faut savoir que c'est une question qui est quand même très occidentale, ça. Elle pourrait, enfin, c'est le corps comme objet d'horreur, pour trouver son explication dans un rejet des pulsions, dont le corps est le siège. Alors là, on va faire une première distinction à partir de ce moment-là. Une première distinction que Freud va faire entre l'instinct et la pulsion. Pour Freud, l'instinct renvoie à ce qui est purement biologique. Quelque chose qui aurait à voir avec, je le cite, un comportement animal fixé par l'hérédité et la caractéristique de l'espèce. Alors c'est ça à quoi finalement le corps peut, dans l'imaginaire collectif, peut nous renvoyer, c'est-à-dire à sa part animale. Par contre, la pulsion pour Freud, c'est ce qui n'est pas seulement biologique. On l'a vu avec la première définition qu'il en donne, c'est un concept limite entre le corps et l'esprit, entre le psychique et le somatique. L'instinct, du coup, ça appelle l'animalité en l'homme, sa part brute, sa part sauvage. Donc c'est dans ce contexte bien particulier, qu'à l'aube du XXe siècle, Freud va tenter de penser l'articulation de l'homme et de son corps. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas un simple anti-dualisme corps-esprit, mais c'est une tentative d'aller au-delà. Il ne va pas dire, voilà, non, l'homme a une unité... fondamentale entre l'esprit et son corps, non, c'est plus compliqué que ça. Je vais vous présenter deux textes, maintenant je vous propose quelques idées directrices pour la lecture de la pulsion chez Freud. On va revenir, Freud le dit déjà, le concept de limite, il est une limite entre le somatique et le psychique, mais on verra qu'il est limite à plusieurs titres dans la pensée de Freud. Donc l'idée directrice que j'aimerais vous proposer ce soir, la thèse que je vous propose, qui permettra de donner une lecture, une grille de lecture aux deux écrits que je vais vous présenter. C'est que premièrement, derrière l'idée de pulsion, comme concept limite, il y a toujours à l'œuvre un dualisme. On l'a vu, Freud dit, voilà, concept limite entre corps et esprit. Mais même plus, on dira une opposition structurelle. Je vais les reprendre les points que j'ai annoncés. Dans un deuxième temps aussi, j'aimerais dire que c'est, finalement, ce concept limite, il y a encore plus, il y a révélé, discriminé cette opposition. C'est-à-dire, il y a le révéler comme un précipité chimique. On reviendra après par la suite hein, sur cette idée-là. La question de la pulsion vient révéler le dualisme. Non, quoi. Il vient le révéler, le mettre en perspective, le laisser se saisir. Et dernier point, l'idée de pulsion viendra mettre en dialogue ce qui est a priori opposé et antagoniste. Je reprends les différents points. Donc, première idée, c'est que derrière la pulsion, comme concept limite, il y a un dualisme. Deuxième point, plus encore, la pulsion révèle ce dualisme, c'est-à-dire de ce qui s'oppose. Et enfin, la pulsion permet un dialogue entre les parties a priori opposées. On verra que la démarche de recherche de Freud, elle se situe toujours dans poser l'idée d'une dualité en l'homme. Et une fois cette dualité posée, il va tenter, enfin une fois la dualité posée en termes conceptuels, en termes théoriques, cette césure validée au niveau théorique, il va tenter de la dépasser, de la transcender comme diraient les philosophes. Et c'est là où la démarche de Freud est quand même particulièrement intéressante, c'est-à-dire il va valider, bah effectivement, d'un côté on a le corps, d'un côté on a l'esprit. Maintenant que ça s'est posé, on va tenter d'aller au-delà. Pour utiliser une petite image, un universitaire lyonnais, également psychanalyste, dit voilà, la démarche de Freud, c'est un petit peu comme la marche. Donc, comme pour la marche, dès qu'un pied prend appui sur le sol et trouve son assise, les premiers concepts, c'est-à-dire une formulation claire, l'autre pied est déjà levé, prêt à se poser plus loin. C'est ça la démarche de Freud. C'est-à-dire, voilà, il pose dans un premier temps des idées fortes. Et une fois ces idées fortes posées, il va les dépasser. Donc l'un des exemples les plus parlants, hein, c'est l'ouvrage de Freud qui date de 1905, qui s'appelle « Trois essais sur la théorie sexuelle ». Alors, dans cet ouvrage, il va partir d'un dualisme entre sexualité normale versus sexualité déviante. Et par l'introduction du concept de pulsion sexuelle, ça va lui permettre de démontrer l'existence de ce qu'il appelle une sexualité infantile. Je vais reprendre pas à pas cette idée. Donc aujourd'hui, c'est un bouquin que vous pouvez trouver chez Folio. Pour ce cours, je me suis replongé dedans, c'est vraiment pertinent, c'est très accessible. On sent toute la démarche scientifique de Freud. Il est finalement assez abordable. Pour aller aller un petit peu au-delà, il va pondre ce bouquin parce qu'il va avoir un choc conceptuel. En 1897, Freud écrit dans ses correspondances avec Fliess, qui est un proche collègue de lui, « Je ne crois plus en ma neurotica ». Alors c'est quoi la neurotica? Freud avait fondé jusque-là une théorie de compréhension des névroses, reposant sur une séduction vécue pendant l'enfance, mais une séduction réelle, dans le réel. C'est-à-dire, voilà, un enfant s'est fait séduire par un adulte. Or, Freud, à partir de 1997, il va mettre en doute la réalité des scènes sexuelles. Tous les pères n'étant pas des pervers. Il dirait quelque part aussi qu'il y a des souvenirs, finalement, qui n'en sont pas. La réalité qu'il va découvrir, il le dit, ça se joue sur une autre scène que la scène du réel. S'il y a eu séduction sexuelle pour lui, ce n'est pas dans la réalité le plus souvent, mais sur quelque chose qui s'est construit et qui ressemble à une séduction sur la scène psychique des fantasmes. Donc voilà, premier choc, la clinique lui démontre à Freud que le modèle qui s'était construit, bah, il est complètement foireux. Donc il va être obligé d'en construire un autre. Donc l'abandon de sa neurotica va ouvrir la voie aux théories sexuelles infantiles et ainsi marquer un tournant dans la psychanalyse. Freud, qui avait déjà admis l'origine sexuelle des troubles névrotiques, comme on l'a dit, c'est-à-dire un adulte a séduit un enfant dans le réel, doit aller encore plus loin. L'idée, c'est qu'il y aura du sexuel qui s'organise dès l'enfance. Donc, trois essais sur la théorie sexuelle parus en 1905 est le fruit de ce remaniement conceptuel. Pratiquement 10 ans de travail depuis l'abandon de sa neurotica pour en arriver là. C'est à partir de ce moment-là aussi, avec 3 essais, que Freud commence véritablement à utiliser le concept de pulsion. Il en parle de manière un peu ponctuelle dans certains bouquins, mais ce livre-là, c'est vraiment un livre qui sera fondé sur la question de la pulsion. Il va lui donner à la pulsion une place centrale dans sa théorisation. Il va donc proposer avec 3 essais un premier modèle pour tenter de se saisir de cette question de la pulsion. Mais ce n'est pas n'importe quelle pulsion dont il va parler ici, c'est de la pulsion sexuelle. Ce qu'il faut souligner quand même ce livre, si vous commencez à le lire, c'est que il y a eu, je crois, 3, 4 ou 5 rééditions. Et il sera remanié en permanence, en note de bas de page, en rajout dans le texte, en fonction de ses découvertes ultérieures, en 1915, 1924. Il faut être quand même très attentif à la lecture de ce bouquin, parce qu'il ne cesse de remanier ce livre au fur et à mesure des différentes éditions. On ne peut pas avoir une lecture linéaire de ce livre sans se dire que toutes les découvertes qu'il a pu faire après, il les modifie au fur et à mesure des différentes éditions. Donc Freud va faire l'hypothèse d'une pulsion sexuelle. Alors c'est quoi une pulsion sexuelle pour lui? C'est ce qui rencontre des besoins sexuels chez l'homme et chez l'animal. Et ça, il le dit dès le début de son ouvrage. Il pose d'emblée l'idée, même s'il ne la formule pas explicitement, que la pulsion sexuelle est cette limite commune entre l'homme et l'animal. On pourra dire aussi de l'animal en l'homme. Donc la pulsion est d'abord pour Freud un concept limite entre l'homme et l'animal, ce qui les unit, mais aussi les différencie. C'est ça qui est un peu... La pensée de Freud, c'est un peu aussi tout un paradoxe, c'est-à-dire, voilà, ça les unit, mais ça les différencie aussi. Donc 3 essais est divisé en 3 parties, 3 essais. Un premier essai qui est consacré à ce qu'il appelle les aberrations sexuelles, on en reparlera. Un second essai qui est consacré à ce qu'il appelle la sexualité infantile. Et un dernier qui parle des transformations à la puberté. Donc la démarche de Freud dans ce bouquin, comme souvent, c'est de proposer un modèle de compréhension du psychisme humain, de son régime ordinaire, à partir de la déviance, de ce qu'il appelle les aberrations sexuelles. Et sa démarche originale, qui sera toujours la même, c'est de déduire le normal à partir du pathologique. Et c'est quand même une des grandes leçons de Freud. Avant, à l'époque des aliénistes, par exemple, la question de la maladie mentale, c'était congénitale, c'était la dégénérescence, c'était inscrit limite dans le génome. Avec Freud, il dit, il dégage, à partir de la pathologie, un modèle qui peut expliquer la normalité. Dans le premier essai, Freud explore différentes perversions sexuelles. Je mets des guillemets, hein, je reviendrai un petit peu sur ces mots qui sont parfois assez forts, hein, très fortement connotés. Il va explorer l'homosexualité, qu'il appelle inversion, la zoophilie, la pédophilie, le fétichisme, le sadomasochisme, le couple voyeurisme et exhibitionnisme. S'il y a des déviances pour Freud, ce n'est pas forcément en termes de dégénérescence innée, comme je viens de vous le dire, mais plutôt en termes de dégénérescence innée ou de véritable aberration constitutionnelle. Mais s'il y a des déviances, c'est plutôt en termes d'élection d'un nouvel objet sexuel, inédit, par rapport à ce qui est communément admis. C'est-à-dire que pour lui, la pulsion sexuelle vient élire un objet et un but qui dérive au regard des voies constatées normalement, par rapport à la normalité, si on fait une courbe de Gauss. La pulsion sexuelle serait poussée à détourner des buts et objets sexuels normaux dans la déviance. Freud montre par là la variabilité de l'objet et de son choix. et que cette variabilité du choix d'objet sexuel, finalement, dépend pour lui des vicissitudes de l'histoire du sujet. La sexualité, elle est polymorphe et très variée, on pourrait même dire créative. Elle n'est pas fixée préalablement. Quand il parle de déviance, Freud, tout au long de son bouquin, il tend, en tout cas on le sent, il tend à jamais porter un jugement moral. En tout cas, il essaie. Parfois, je pense que c'est des choses qui lui sont souvent reprochées. Il faut aussi revoir le contexte dans lequel il écrit ce livre, où on est quand même dans une société, en 1905, très moraliste, très, très bourgeoise. Et voilà, il est aussi, dans sa manière de parler, un peu imprégné du discours ambiant. Mais il tente de s'en dégager. Il dit finalement que dans la sexualité normale, il y a toujours un petit peu de fétichisme, un petit peu de sadomasochisme, un petit peu d'exhibitionnisme, de voyeurisme. Même dans son bouquin, c'est assez étonnant, il dit que même le baiser serait une forme de déviance. Dans le sens où elle n'est pas utile à la conservation de l'espèce. Donc il y a déviance. C'est là aussi ce qui différencie l'homme de l'animal. La conclusion du premier essai ouvre sur une idée forte, hein, celle que la perversion vient dire quelque chose de la sexualité humaine ordinaire. Voilà ce qu'il dit. Après avoir fait l'étalage de toutes ces aberrations sexuelles, il vient dire « Nous sommes à présent en mesure de conclure qu'il y a en effet quelque chose d'inné à la base des perversions, mais quelque chose que tous les hommes ont en partage et qui, en tant que prédisposition, est susceptible de varier dans son intensité et attend d'être mise en relève par les influences de l'existence. » Donc s'il y a quelque chose d'inné pour Freud, hein, ce sont tous les hommes qui l'ont en partage. Et ce n'est pas forcément que les pervers. Avec cette première partie, il va mettre une première limite en exergue, une deuxième limite après celle qu'on a faite entre l'animal et l'homme. La deuxième limite qu'il a posé, c'est entre la sexualité normale ou normative et la sexualité déviante. Ce qu'il dit plus généralement, c'est que la déviance part de l'homme normal, même si parfois elle peut revêtir le masque du monstrueux, de l'inhumain, du bestial. Aujourd'hui, quand on parle de pédophilie, il n'y a rien de plus monstrueux. Pourtant, ça vient parler de l'homme normal, tout ça. Et cette idée, elle est quand même assez dure à accepter. Et ce qui ferait donc la différence entre l'homme normal et l'homme déviant, du point de vue de leur sexualité, serait une fixation, dit Freud, à un état infantile de la sexualité. Voilà, après une longue conclusion comme ça, Freud dit, il y a une sexualité infantile. Donc la pulsion sexuelle serait un concept limite entre l'homme normal et l'homme déviant dans leur pratique sexuelle. Deuxième point, le concept limite entre l'homme normal et l'homme déviant dans leur pratique sexuelle. Mais c'est aussi en posant ce dualisme, puis en le dépassant, que Freud va proposer un discours sur l'homme et sa sexualité, l'hypothèse de la sexualité infantile. Pour en dire un peu plus, Freud avance l'idée d'une prédisposition universelle à une sexualité multiforme, polymorphe, qui n'est pas préformatée et fixée à l'avance, en termes de sexualité. Ce que Freud appelle par pulsion sexuelle se caractérise par une grande plasticité des expressions dans l'enfance. Il y a durant l'enfance, comme il dit, une prédisposition, alors ça va être un petit peu barbare, polymorphiquement perverse. Mais le pervers ici n'est pas un déviant, car le polymorphe signale qu'aucune direction définitive n'a été prise. Et ce qui détermine finalement le sexuel, c'est l'histoire individuelle, en rapport avec son environnement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, à sa publication, a vivement choqué le grand public. C'est la thèse de Freud qui choque celle d'une sexualité infantile, qui aurait du sexuel déjà chez l'enfant. Du sexuel non génitalisé, mais du sexuel quand même. Et accueillir cette idée à l'époque a été très simple, je crois qu'elle ne l'est toujours pas. Je crois qu'une petite aparté s'impose, parce qu'il va y avoir peut-être des jeux de confusion entre le sexuel et la sexualité. On est tous des adultes ici, on a plutôt tendance à projeter nos schémas en termes de sexuel sur les enfants. Alors, quand Freud parle de sexualité infantile, il parle pas des pratiques adultes. Ce qu'il entend par là, c'est une énergie psychosexuelle. Une énergie psychosexuelle qui est génératrice de plaisir ou de déplaisir. Une énergie pouvant se comprendre aussi comme le carburant du psychique. La psyché, pour lui, cherche des situations de plaisir, ce qui l'organise et la vectorise. Alors ça, on l'est vraiment dans le cadre de cette conceptualisation en 1905. Elle va changer. Hein. On est dans la pensée de Freud, dans les premiers jalons de ce qu'il appelle la première théorie des pulsions. Donc la psyché cherche des situations de plaisir, et c'est ça qui l'organise et la vectorise. Et c'est quoi le plaisir? Le plaisir est obtenu par une baisse des tensions internes. Et inversement, le plaisir par l'augmentation de ces mêmes tensions. C'est comme ça que Freud va définir le plaisir. C'est ce qu'il appelle aussi le principe de plaisir des plaisirs. Donc, dans la conceptualisation de Freud de sa première théorie des pulsions, trois essais jouent un rôle central. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, dans le deuxième essai, qui est consacré à la sexualité infantile, il va introduire plusieurs idées pour définir la pulsion. Il introduit l'idée de but pulsionnel, c'est-à-dire la satisfaction, par la résolution d'une tension interne, et l'objet sexuel, c'est-à-dire ce en quoi et par quoi la satisfaction pourra être atteinte. Il évoquera aussi l'idée de source, mais à ce moment-là, sa pensée, elle est associée à l'idée de zone érogène. Et je vais revenir sur ces idées-là. Freud va décrire l'évolution de la sexualité infantile en une succession de stades de différentes pulsions partielles. Je crois que tout le monde en a entendu parler. À chaque pulsion partielle correspond une zone érogène et un stade. Il va parler du stade oral, entre 0 et 2 ans, du stade anal, entre 2 et 3 ans, du stade phallique, entre 3 et 5 ans. C'est ça que Freud appelle les stades libidinaux. Donc ces stades sont pour lui des étapes du développement de l'enfant. Chaque étape est caractérisée par une organisation spécifique de la pulsion sexuelle. Elle est liée à une zone érogène prévalente, organisatrice, sur laquelle l'excitation va se jouer. Alors il faut se méfier, parce qu'à l'époque, il parlait de stades. Il ne s'agit pas de simples successions chronologiques de stades. Hein. Il s'agit de phases, de paliers d'organisation qui peuvent se chevaucher ou coïncider chez l'enfant. Et chacun des stades décrits par Freud représente une organisation originale de la pulsion, de la sexualité infantile, fortement induit par la caractéristique de la zone érogène impliquée. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite aparté. Bon, il n'en parle pas forcément dans trois essais, mais revenir un petit peu sur les stades libidinaux. Vous en avez tous entendu parler, ça. Donc, premièrement, le stade oral. Le stade oral, on le situe entre 0 et 2 ans. Donc, ce stade va instaurer la zone buccale et les lèvres, enfin, buccopharyngé, les lèvres, comme première zone érogène. Elle est ce que Freud appelle la première zone pulsionnelle, partielle. On pourrait y voir la simple absorption de nourriture par le petit bébé et le plaisir de la satiété. La satiété, on pourrait dire que c'est le but de la pulsion. Mais quand le bébé y tète, pour ceux qui en ont fait l'expérience, il tète pas uniquement avec sa bouche, il tète aussi avec ses yeux, avec ses petites mains boudinées, avec sa respiration. Le bébé absorbe par la peau, la vision, l'ouïe, l'odorat, l'appréhension manuelle. Qu'est-ce qu'il absorbe? Finalement, il absorbe la présence maternelle. Donc il est, à cette époque-là, totalement dépendant. À ce moment-là, entre 0 et 2 ans, le bébé, le petit homme, il entretient véritablement un rapport d'oralité au monde. On voit ces bébés qui mettent tout à la bouche pour explorer le monde, même les mains, le hocher, un caillou qui traîne, etc. Où la logique dans laquelle vit le bébé, c'est que le mauvais est rejeté hors de soi et le bon incorporé en soi. On va dire que ce stade-là, c'est les fondamentaux des premières limites de ce qui est moi et non moi. Ce sont ce qu'on appelle aussi les premières assises narcissiques. Donc la pulsion, à ce moment-là, telle que l'a défini Freud dans trois essais, s'organise sur un mode oral, où donc la source, c'est la zone buccopharyngée. Le but, c'est l'absorption, mettre à l'intérieur, et l'objet, le lait, entre guillemets, qui représente la présence maternelle, aussi bien par son odeur, sa douceur, toutes les sensations qu'il peut procurer. Et Jean-Baptiste me rappelait dans nos séances de travail qu'une maman qui allait pour un bébé, elle sent le lait. Et que à chaque fois que le bébé est en présence de maman, il a besoin de téter. C'est pour ça que l'introduction du papa est intéressante aussi. Parce que voilà, il n'est pas question que d'absorber, il est aussi question d'absorber d'autres formes de présence que celle de la maman. Donc au cours de la deuxième année de la vie, avec le début de la maîtrise sphinctérienne, hein, entre 0 et 3 ans, un nouveau palier va être franchi. Il y a là une maturation biologique qui lui appartient à l'espèce, et une maturation du corps qui va permettre à l'enfant d'acquérir de nouvelles potentialités qu'on appelle neuromusculaires, avec la maîtrise sphinctérienne. C'est là l'apparition de ce qu'il appelle le stade anal. Donc, dans ce deuxième stade, la zone qui est particulièrement investie à la fois par le bébé et par l'environnement, on parlera du coup, c'est la zone anale. Alors, il faut savoir, c'est que cette zone-là, elle est aussi le siège d'un certain nombre de sensations particulières, d'une certaine forme d'excitabilité. Quand, par exemple, on est malade, quand on a une gastro, on se rend compte de ces sensations. Ça fait du bien, en gros, de se vider. Donc, c'est une zone qui est prévalente dans l'organisation du petit bébé, enfin, du petit garçon. C'est une zone de plaisir. Faire caca, pour le petit garçon, c'est aussi une zone de plaisir. Mais il va y avoir aussi, à cette époque-là, de nouvelles potentialités relationnelles.
Les filles aussi.
Les filles aussi, ah, c'est oui. Bien. Je ne sais pas faire mon fil. On va dire, à cette époque-là, il va y avoir de nouvelles potentialités relationnelles aussi qui vont s'organiser. Il y a le pot. Il faut savoir aussi qu'avec l'acquisition de la marche, le bébé va être... Enfin, le petit garçon ou la petite fille va être... Ou la petite fille va être dans un... On appelle ça un retournement passif-actif. Durant les deux premières années de la vie, le bébé est complètement dépendant de la maman. À ce moment-là, avec l'acquisition de la marche, avec la maîtrise sphinctérienne, le petit garçon ou la petite fille va commencer à retourner et à être actif. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas tout le temps donner la crosse. Il voudra s'échapper parfois du regard de maman. Voilà. Il fait subir à maman, finalement, tout ce que lui a subi durant les deux premières années. Et c'est aussi entre 2 et 3 ans qu'on observe l'apparition du nom, une certaine forme d'opposition. Et on sait que l'analité, il se joue autour du pot, autour de l'apprentissage de la propreté, énormément d'enjeux relationnels. Est-ce que le petit garçon ou la petite fille va faire plaisir à maman en lâchant la crotte ou pas? Est-ce qu'en la gardant trop longtemps, ça va faire mal au ventre? Voilà, il va être obligé d'être dans une relation où il va être obligé de sacrifier à un moment donné une partie de son omnipotence, de sa toute-puissance, pour un mieux relationnel avec maman. Je passe vite. Donc le stade qui succède à l'analité, c'est le fameux stade phallique. L'enfant va commencer à pouvoir avoir une maîtrise quasi parfaite de son corps, de sa motricité, et va commencer à pouvoir jouer avec lui, avec ce corps. Dans un rapport aux autres et un rapport aux interdits. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On y observe aussi les premières activités masturbatoires. C'est vrai qu'à l'époque, moi quand j'avais commencé mes études de psycho, j'ai ma belle-mère qui était institutrice, qui m'avait dit, à 4-5 ans, on commence à observer la masturbation. Moi, j'étais choqué à l'époque. Mais non, c'est pas possible. Ça arrive qu'à la puberté. Donc déjà, chez moi, cette idée-là, elle résiste. Mais effectivement, les premières activités masturbatoires commencent à partir de 5-6 ans, avec des enjeux bien particuliers. Est-ce que c'est interdit ou autorisé? Mon zizi aussi se détache-t-il? Est-ce que ça, c'est toujours là ou pas? Donc, à ce stade correspond pour Freud le moment culminant le déclin du complexe d'Oedipe, qui survient au cours de la troisième année. L'enfant va prendre conscience de la différence anatomique des sexes, c'est-à-dire la présence ou l'absence de ce que Freud appelle le pénis. C'est ça, l'organisation phallique de la pulsion. Donc, dans trois essais voilà, je ferme la parenthèse. Freud dit que la pulsion est à comprendre comme un résultat complexe d'un assemblage entre un but, un objet et une source. Il y a quelque chose qui se complexifie, qui s'organise par discrimination. conjointement et réciproquement un objet apparaît et se distingue d'une source, inscrit dans le corps, la source, et un but s'organise sur une nouvelle scène, la psyché. Pour conclure sur trois essais, Freud dit que la pulsion n'est rien d'autre que l'effort et le travail de la vie psychique pour tenter de se représenter et de rendre compte de ce qui pousse de, à et à l'intérieur. Premier point important, c'est une des grandes conclusions de ce bouquin. Deuxième point, la psyché tente de se représenter ce quelque chose qui pousse à l'intérieur, ce quelque chose du grouillement des organes, représenté à défaut de pouvoir fuir, car comme le dit Freud, on ne peut pas fuir notre propre corps. Et dernier point, la pulsion est le carburant du psychique. Mais avant d'être utilisable comme tel, c'est-à-dire comme un carburant, il a fallu en raffiner la matière première. Et ça, c'est tout le travail de la psyché. C'est-à-dire à la fois, la pulsion, comme dit Freud, n'appartient pas uniquement au corps, ni à la psyché, elle est ce travail conjointement fait entre l'activité de représentation de la psyché, basée sur ce qui pousse à l'intérieur. Je vous parlais de ces notes que Freud pouvait rajouter au cours des différentes rééditions. En voilà une qui date de 1915. Le bouquin date de 1905, il en rajoute une en 1915. Et qui est pratiquement une définition complète de la pulsion. Il dit « Par pulsion, nous ne pouvons de prime abord rien désigner d'autre que la représentance psychique d'une source endopsychique de stimulation, s'écoulant de façon continue, par opposition à la stimulation produite par des excitations sporadiques et externes. La pulsion est donc un des concepts de démarcation entre le psychique et le somatique. » Ce qu'il dit finalement, c'est que ce qui est de l'ordre de la pulsion, c'est ce qui vient de l'intérieur. Il fait l'opposition avec les formes d'excitation externe. Voilà, le petit homme, quand il grandit, il va commencer à faire la différenciation de ce qui vient de l'intérieur et de l'extérieur en faisant une première discrimination, c'est-à-dire, voilà, ce qui vient de l'extérieur, on peut le fuir, on peut se barrer. Alors que la pulsion, comme ça vient de l'intérieur, eh ben, on y est soumis en permanence. Là vont se poser les premières limites de ce qui vient du dedans et de ce qui vient du dehors. Donc 1915, ce passage a été rajouté en 1915, et 1915 c'est l'année de parution de Pulsion et Destin des Pulsions. C'est une note qu'on peut penser qu'il a rajoutée après l'écrit de cet article-là. Je fais un petit peu de pub pour Folio. Voilà, vous pouvez trouver cet article dans Métapsychologie. Il a été, semble-t-il, pas trop remanié. Il est beaucoup plus dur à lire, par contre. J'en ai fait l'expérience. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu cet article de Pulsion et de Pulsion. Je crois qu'il manque un S à Pulsion, d'ailleurs, au premier. Et c'est extrêmement pénible à lire. Mais enfin, bon, il vaut mieux avoir lu avant trois essais. Donc en 1915, quand Freud publie ce bouquin, il a 59 ans. Il publie Métapsychologie, ouvrage dans lequel se trouve donc cet article. À ce moment-là, il est à peu près parvenu au milieu de son trajet scientifique. Il éprouve à ce moment-là aussi le besoin de préciser et de cerner les concepts fondamentaux de la psychanalyse, qu'il avait laissé jusqu'alors dans une relative et féconde indétermination. Enfin, Freud, il définit pas toujours les termes qu'il utilise. Il y a des moments où il va se poser, il va définir les termes, puis après il va les déconstruire. Donc les concepts qu'il va développer dans ce bouquin, c'est l'inconscient, le refoulement et la pulsion avec cet article. Au tout début de son article, il vient à dire, qui précise un petit peu sa démarche scientifique. Une science doit être construite sur des concepts fondamentaux clairs et nettement définis. Il dit aussi que ces concepts fondamentaux et fondateurs de toute science comportent toujours un certain degré d'indétermination. Et que même fixés en une définition, c'est-à-dire enfermés dans des mots, leur contenu sera soumis constamment à modification. Donc en 1915, Freud le sait, il s'attelle à un travail difficile et risqué, suivi de la définition d'un concept qu'il pense central dans la compréhension et la modélisation de la psychologie humaine. Il doit en passer par là, quitte à la modifier plus tard. Il avertit le lecteur au tout début de son article. Il y a un concept fondamental et conventionnel de ce genre, encore assez confus pour l'instant, dont nous pouvons nous passer en psychologie, c'est celui de pulsion. Donc là, il dit clairement, il est temps pour lui d'enfermer ce concept central de la psychanalyse dans une définition. Et ce qu'il va proposer là, c'est une définition générique de la pulsion, et plus forcément de la pulsion sexuelle. C'est-à-dire qu'il va proposer, voilà, jusqu'à 1915, Freud va parler des pulsions. Il y en a plusieurs. Et là, à partir de 1915, il va donner une définition générique de ce que c'est que la pulsion. Donc, première définition, il oppose, comme on l'a vu tout à l'heure, la pulsion à l'excitation. L'excitation est assimilée à une stimulation provenant du monde extérieur. Elle a donc, une excitation donc, à laquelle on peut se soustraire par la fuite motrice devant ce qui est source d'excitation. La pulsion, elle, ne provient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de l'organisme lui-même. Donc voilà, une première base, ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur. Dans le texte, ça donne. La pulsion, au contraire, n'agit jamais comme une force d'impact momentané, mais toujours comme une force constante. Ça pulse tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas y échapper. Et comme elle n'attaque pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du corps, il n'y a pas de fuite qui puisse servir contre elle. Il existe un meilleur terme que celui d'excitation pulsionnelle, c'est celui de besoin. Ce qui supprime ce besoin, c'est la satisfaction. La solution que peut trouver le psychique, puisqu'il ne peut pas fuir, c'est de satisfaire ce qui tente à pousser de l'intérieur, par le besoin. Ces pulsions, elles auraient un besoin, et ce serait la satisfaction. Donc là, il dit que l'une des premières exigences du psychique, c'est la discrimination entre ce qui vient du dedans et ce qui vient du dehors. Quelque part, là, Freud dit que la pulsion est un concept limite entre ce qui vient du dedans et du dehors. Mais dans ce livre, il dit que ce n'est pas la seule limite que la pulsion signe. La pulsion a une double face, et ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Elle a une face somatique et une face psychique. Pour lui, la pulsion est ce point de charnière entre le corps et la psyché. Le corps, il est mué par des déséquilibres chimiques et des métabolismes particuliers qui répondent à des lois biologiques, celles du corps, qu'on peut voir dans les sciences comme la physiologie. Et le psychique, lui, va tenter de se représenter ce qui se passe à l'intérieur pour s'en informer par les pulsions. La citation, ça donne. Si en nous plaçant d'un point de vue biologique, nous considérons maintenant la vie psychique, le concept de pulsion nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations, issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychique, comme une mesure de l'exigence du travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison corporelle. Donc, la pulsion pour Freud, c'est l'idée d'un représentant, une sorte de délégation envoyée par le somatique, par le corporel, au psychique, comme une forme de VRP, comme un ambassadeur, comme un négociateur, envoyé par le corps au psychique avec leurs exigences respectives. La pulsion est donc est un concept et une matière articulatoire entre corps et psychique. Un premier schéma pour essayer de se représenter cette question complexe. Voilà. On peut dire qu'au tout début de la vie, il y a une forme d'unité qu'on pourrait appeler somatopsychique. Et comme l'existence pousse à tenter de se représenter ce qui pousse de l'intérieur, on peut penser que la pulsion va procéder comme une discrimination entre la question du corps et la question de la psyché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la pulsion, c'est quelque chose qui s'organise. On l'a vu à travers l'oralité, l'analité, le staphalique. Il y a les contemporains de Freud ont même complexifié tous ces stades. Voilà, c'est quelque chose qui s'organise. Et ça s'organise aussi pour marquer une forme de dialectique, une opposition, un dualisme. Et la pulsion, finalement, ça sert à dialoguer entre ce qui vient du corps et ce qui vient de la tête. On avait parlé tout à l'heure dans trois essais de la question de l'objet, du but et de la source. Freud va reprendre ce modèle-là et le complexifier un petit peu. Il va la définir maintenant, la pulsion, en quatre termes. Alors, il y a une source, ce que Freud appelait la zone érogène. Il y a l'objet de la pulsion par lequel la pulsion s'assouvit. Il y a le but de la pulsion. Et le quatrième terme qu'il ajoute, c'est la poussée. La pulsion est donc un concept englobant, c'est-à-dire l'organisation d'une source, d'un objet, d'une poussée et d'un but. La pulsion a un but, une direction, ça ne pousse pas n'importe comment, n'importe où, ça pousse vers l'objet de la satisfaction, de la pulsion. Pour essayer de se représenter un petit peu ces questions, je vous ai fait un joli dessin. Donc en fait, ce qui se trouve dans l'ellipse, finalement, ce serait ça la pulsion. Et ça englobe du coup une source. Ça peut être la zone buccopharyngée, ça peut être la zone anale, ça peut être différentes zones, ça peut être aussi, si on décline la peau, hein, aussi, un objet. L'objet qu'on peut considérer comme un objet extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le lait, la présence maternelle, mais ça peut être aussi un objet interne, c'est-à-dire une représentation. Voilà. À force de faire l'expérience de la présence maternelle, le petit homme va commencer à en avoir une représentation à l'intérieur. Et il n'aura pas tout le temps besoin de maman pour satisfaire ses besoins. On le voit par exemple avec le sucement, quand un petit garçon, une petite fille suce son pouce, c'est comme s'il réactivait ses souvenirs comme ça de l'oralité. Voilà, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur, mais maintenant je sais utiliser maman quand elle n'est pas là, je peux utiliser une représentation de maman que j'ai à l'intérieur de la tête. Je vous laisse le temps de reprendre. Je redis, hein, ce PowerPoint sera à disposition. Donc, la source, il s'agit donc d'une source somatique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une source inscrite dans le corps et qui sera investie par l'environnement maternant et en fonction des différents développements de l'enfant. Donc au tout début, on l'a dit, la première zone qui est investie à la fois par le bébé mais aussi par l'environnement dans une forme d'indécidabilité, c'est la bouche. Parce qu'il est question de la survie du petit ou de la petite. Donc c'est ça, ça va devenir une zone importante. Après, ce sera la zone anale, etc. L'objet. L'objet, c'est l'objet peut-être interne, comme je dis, c'est-à-dire envoyer une représentation. Ou alors externe, c'est-à-dire à un autre sujet. Une maman. Une petite. La poussée, elle, fait référence à la force qui s'inscrit dans le biologique du corps. Voilà, il y a toujours quelque chose qui pulse, qui pousse. Et le but, donc c'est le but de la pulsion, est souvent la recherche de plaisir avec des charges. Pour le redire autrement, avec les différents stades qu'on a abordés, on pourra dire que, en fonction de la source, c'est tout le système pulsionnel qui prendra une qualité, une couleur particulière. On pourra dire que dans le premier temps de la vie, le petit bébé, il a une relation d'oralité au monde. Après, dans un deuxième temps, une relation d'analité au monde, en fonction de l'organisation de la pulsion. Une organisation phallique au monde. Il y a ces petits garçons qui arrivent tout nus alors qu'on est en repas, et qui montrent le zizi à tout le monde, ou les petites filles qui arrivent toutes nues voilà, à 5-6 ans. Donc les différentes entrées hein, de ces sources, c'est donc, comme on l'a dit, l'oralité, l'analité et le phallique. Mais pour Freud, il n'y a qu'une seule et unique pulsion générique, mais qui, en fonction des différents stades de l'enfant et des sources qui caractérisent ces stades, s'organisera donc de manière différente. Freud va faire une dernière distinction dans cet article, qui pour moi, en tout cas pour mon propos, m'a semblé assez fondamentale. Originairement, la question de la pulsion possède une ambiguïté qui devra être levée pour lui. Entre ce qu'il appelle une composante, la pulsion d'autoconservation, qui engage l'existence individuelle, et une composante qui implique, elle, la conservation de l'espèce. Voilà, il y a une espèce, enfin, c'est entre la question de l'individu et quelque chose qui dépasse l'existence de l'individu. Quelque part, la pulsion, elle serait un concept limite entre la question de l'espèce et la question de l'individu. Ce qu'on appelle la phylogénèse. La phylogénèse, c'est tout ce qui est en rapport avec l'espèce, et l'ontogénèse, qui est ce qui ramène à la construction du sujet. Et quelque part, ça ramène un peu à la question qu'on s'était posée, enfin, à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, entre la pulsion, concept limite entre humanité et animalité, entre homme civilisé et homme nature. J'aurais envie de dire que, enfin voilà, quand la pulsion, ça s'organise, quand ça se complexifie en forme de pulsion, elle serait. Après, on aura un temps pour discuter de tout ça. Hein. Elle serait un des organisateurs anthropomorphiques, c'est-à-dire de ce qui fait l'homme un homme. Il n'y aurait pas de pulsion, il y aurait une pulsion qui n'arrive pas à s'organiser en rapport avec l'environnement. C'est là où on pourrait avoir quelque chose de l'ordre de la déviance, comme Freud le souligne dans son essai. Moi, c'est maintenant que je pense, j'ai oublié de me présenter. Mais je comptais vraiment me présenter. On reviendra à parler de ça tout à l'heure, parce que moi je travaille sur Saint-Étienne avec des populations, avec une clinique de la précarité, et particulièrement avec des jeunes errants, des vagabonds, des clochards. Et la question de la pulsion comme organisateur anthropomorphique, elle échoue là, quelque part. C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas quel effet ça vous fait de croiser un clochard, mais on a du mal à s'identifier dans notre sentiment d'humanité à ces personnes. Leur pulsion à eux part à volo, elles boivent jusqu'à être ivres mortes, elles sont pas. Il n'y a pas de permis de conduire ces pulsions, elles sont prêtes à se déféquer dessus. On sent quelque chose autour de la pulsion qui échoue à s'organiser et qui renvoie à quelque chose de l'ordre du non-humain, de l'inhumain, voire parfois du monstrueux. Je vous en parlerai peut-être mieux tout à l'heure. Et donc, comme je vous l'ai dit, son échec à se constituer, cette question de la pulsion, ouvrirait sur un mode psychopathologique d'être au monde. En tout cas, qu'on pourrait qualifier comme tel. Donc voilà, moi il me semble qu'il y a derrière le concept de pulsion comme concept limite, il y a aussi cette différence à faire. La pulsion, elle vient mettre et opposer nouveau dualisme entre la question de l'espèce et la question de l'individu. Et ça me fait penser à encore, enfin, je crois qu'il y a moins d'un an, on a retrouvé un enfant en Russie qui avait encore un enfant sauvage. On s'aperçoit à quel point en l'absence d'autres humains, l'homme est un animal. Et c'est ça que je définis, le noyau d'ambiguïté génétique, c'est-à-dire voilà, un homme qui échoue à devenir un homme, qui arrive pas, parce qu'il est en l'absence d'autres hommes, à pouvoir se construire dans son sentiment d'humanité. Petit récapitulatif. On y arrive, hein? 5 minutes encore?
Une, normalement.
Je vous ai fait un dessin générique, voilà, entre une espèce Z, qui serait une espèce d'unité fusionnelle, quelque chose comme ça, qui serait un peu inhérente au fait d'être homme. Et puis, avec l'introduction de la pulsion, il commence à y avoir quelque chose de pôle qui vont s'organiser. On peut le penser comme ça. Moi, je vous avais parlé tout à l'heure d'opposition, de dualisme, mais on peut aussi penser en termes de pôles qui vont, comme un pôle nord et un pôle sud, un pôle négatif et un pôle positif, où il va commencer à pouvoir y avoir une dialectique, un dialogue. Et la pulsion, finalement, permettrait le dialogue avec soi-même, c'est-à-dire corps psyché, espèce individu. Ce modèle, il est critiquable, j'espère que vous allez le critiquer tout à l'heure. Pour conclure, pulsion matière à philosopher. Alors, si ça a été clair pour tout le monde, on aura vu que la pulsion est une organisation. Elle est liaison à partir des 4 différents formats. Source, objet, but, poussée. Elle s'organise et nourrit la vie psychique. Elle est organisation et complexification, qui permettent ainsi de sortir de la non-différenciation originaire dans laquelle le bébé se trouve d'emblée jeté. Une non-différenciation entre ce qui relève du corps et ce qui relève de la psyché, entre ce qui relève du dedans et ce qui relève du dehors. Je m'avance un petit peu, mais ce sera plus l'objet de mes collègues, entre ce qui relève de l'objet et ce qui relève du sujet. Elle permet aussi de dépasser l'atavisme en l'homme, c'est-à-dire toute la question de l'espèce, de l'animalité. Elle fonde petit à petit aussi un sentiment subjectif. Et par là, un sentiment de liberté. Alors pourquoi ça? On va dire que une pulsion qui s'organise, organise quelque chose de la contrainte du corps. Elle met en forme quelque chose, elle se représente à elle-même quelque chose de contraignant. Parce qu'on l'a vu, le corps c'est le puits des instincts qui peuvent être parfois véritablement tyranniques. Donc la pulsion, Elle est mise en forme de la contrainte en tant que contrainte. C'est-à-dire que la psyché va se représenter, cette contrainte de l'intérieur, sous une forme de contrainte. Voilà, je suis contraint à manger. Quand j'ai faim, je suis contraint par quoi m'alimenter. Je peux tenir quelques jours, mais à un moment donné, je ne peux plus passer outre le fait de manger. Ainsi, la pulsion, quand ça s'organise sur ça organise quelque chose du rapport corps-esprit. Et c'est parce qu'elle est mise en forme de la contrainte que la pulsion permet une certaine forme d'émancipation vis-à-vis de la contrainte interne, qui est la tyrannie du corps. C'est-à-dire que la pulsion, elle est, comme dit Freud, représentante de ce qui aliène le psychique de l'intérieur. Elle est représentante par et pour le psychique, et par là, elle est émancipation du moi. C'est-à-dire, une fois la contrainte localisée, cernée, on peut, à un moment donné, la dépasser. C'est un peu la démarche de Freud, quand Alain Ferrand disait qu'une fois le pied posé sur une assise bien claire, l'autre pied commence à partir. Donc la pulsion, elle aliène nécessairement le psychique. Mais de la même manière qu'il ne peut pas y avoir, peut-être que là ça va vous parler, il ne peut pas y avoir de liberté sans contrainte. La liberté, ça se définit par rapport à la contrainte. Dans certains écrits de gens qui ont été dans les camps de concentration, ils n'ont jamais trouvé de sentiment de liberté aussi puissant que dans l'incarcération ou dans les camps de concentration. La liberté, ça se définit forcément par rapport à la contrainte. Donc il ne peut pas y avoir de sentiment subjectif sans représentation à minima de ce qui est contrainte, celle qu'impose la finitude de notre corps, l'organicité de notre existence. Et cette finitude-là, elle est inscrite dans notre corps. Et quelque part aussi, la pulsion libère de la nature, la nature qui plonge ses racines en elle, elle libère de l'homme-nature. J'ai pratiquement terminé. J'ai voulu revenir sur le thème de cette année qui était passer les bornes, il n'y a plus de limite. J'avais voulu tenter de le poser comme une question. Hein. C'est-à-dire, passer les bornes, n'y a-t-il plus de limite? Je crois que c'est toujours très difficile de répondre à des questions comme ça. Puis c'est dangereux aussi, parce que du coup, si je vous apporte une réponse, on restreint le champ des possibles et la créativité de chacun. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que une fois les bornes posées, hein, c'est-à-dire des pierres enchâssées dans le sol, pour identifier notre lieu, délimitant le territoire de notre existence, elle autoriserait l'émancipation, le voyage, l'aventure sans grand danger. Parce qu'il y aurait toujours la possibilité de revenir chez soi. Si on n'y a pas de chez soi, c'est l'errance. Et je crois que la question des pulsions, elle est centrale à ce niveau-là. Et j'avais envie de vous laisser sur une petite citation qui n'est ni d'un psychanalyste, un petit peu philosophe, qui s'appelle Edgar Morin, qui est sociologue. Je vous laisserai méditer là-dessus. Il dit « Rien n'est plus potentiellement ouvert que l'esprit humain, aventureux et curieux de toutes choses. Mais rien n'est plus clos que le cerveau humain, dont la clôture, pourtant, permet cette ouverture. » J'espère qu'avec la question de la pulsion, j'ai tenté d'articuler ces deux idées. J'en ai terminé.